Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Florent Bujon.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Comme chaque vendredi, nous vous proposons un débat d'actualité économique. Aujourd'hui, après l'attribution du prix Nobel à Esther Duflo, aux côtés de deux Américains, la recherche française en économie est-elle à la pointe ? C'est la deuxième fois seulement depuis la création du prix de la Banque de Suède en 1968 qu'une femme reçoit cette distinction, et cela 10 ans après l'américaine Elinor Ostrom. Un prix qui vient aujourd'hui récompenser des travaux sur la lutte contre la pauvreté. Une double révolution donc, puisque la discipline peine largement à se féminiser et à valoriser peut-être des problématiques plus sociales, des questions qui se posent en France comme aux États-Unis, terre promise des économistes du monde entier et notamment des chercheurs français. Alors comment la France peut-elle retenir ses économistes ? La discipline doit-elle aujourd'hui se réinventer pour donner toute leur place aux femmes et mieux intégrer les opinions dissidentes ? Voilà les questions qui ponctueront notre débat du jour. À 14h45, on retrouvera la bibliothèque de l'Écho. Notre essai de la semaine est consacré au devoir de vigilance des entreprises. Une victoire contre l'impunité des multinationales. C'est le titre de cet ouvrage du journaliste Olivier Petitjean qui répondra aux questions de Marguerite Caton. Et pour parler des splendeurs et des misères de la recherche en économie, trois invités autour de la table. Bonjour Pierre-Yves Joffard.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'école d'économie de Paris, directeur de recherche au CNRS et membre du Cercle des économistes. À vos côtés, Béatrice Cherrier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne de l'économie, chargée de recherche au CNRS et vous avez écrit en 2017 un article intitulé « Les économistes sont-ils sexistes ? » On va en parler. Et enfin Arthur Jatteau, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille, membre de PEPS Économie, un réseau qui se bat pour un enseignement pluraliste dans le supérieur en économie. Et vous avez consacré votre thèse à la méthodologie d'Esther Duflo et de ses collègues. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui.
L'Académie royale des sciences de Suède a décidé aujourd'hui de décerner le prix 2019 des sciences économiques à la mémoire d'Alfred Nobel, conjointement à Abhijit Banerjee, Esther Duflo et Michael Kremer, pour leur approche expérimentale visant à réduire la pauvreté dans le monde.
C'est la consécration des progrès qui ont été accomplis jusqu'ici, à la fois par nous, mais surtout par tous les chercheurs qui travaillent avec ces méthodes, tous les partenaires, tous les gouvernements. C'est aussi un espoir et une indication que ça va nous donner encore plus d'énergie et encore plus de vent dans nos voiles pour faire mieux, pour continuer à affecter la vie de centaines de millions de personnes dans le monde.
Esther Duflo, lors de la conférence de presse donnée lundi après l'attribution du prix Nobel, une première réaction à Pierre-Yves Joffard à cette distinction qui a peut-être d'abord eu le mérite de remettre sur le devant de la scène la lutte contre la pauvreté.
Oui, c'est indéniable. C'est, je crois que un des enseignements qu'on peut tirer de cet ensemble de travaux, c'est très impressionnant par la pertinence des questions qui sont abordées et les réponses et le pragmatisme des réponses qui est abordé, qui est en lien direct avec des politiques publiques et qui a conduit dans de nombreux pays à la mise en œuvre de politiques qui avaient démontré leur efficacité dans un contexte ou dans un autre. Et je crois que l'impact que ça a eu sur alors des centaines de millions de gens, je ne sais pas, mais en tout cas certainement des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de gens, il y a eu certains de ces travaux qui ont effectivement changé leur vie de manière durable. Et ça, il y a très peu d'économistes qui peuvent se prévaloir de tels succès.
Alors on va parler de l'efficacité effectivement de ces travaux, mais d'abord on peut dire, Béatrice Cherrier, que c'est avant tout une méthode qui a été récompensée par ce prix Nobel.
Oui, probablement. C'est un prix Nobel qui est très symbolique dans le sens où donc Esther Duflo est pas seulement une femme et la deuxième femme, c'est aussi l'économiste le plus l'économiste la plus jeune jamais récompensée. Auparavant, ce titre-là était à Kenna Sarrow, qui était un théoricien. Donc, c'est vraiment un changement d'époque.
Elle a 46 ans.
Elle a 46 ans et ça récompense vraiment des méthodes expérimentales qui tendent à s'éloigner, à donner le primat sur la recherche de terrain plutôt que d'être assujettie à la théorie. Et c'est un gros changement, effectivement.
Ça acte en quelque sorte ce tournant empirique qui a été pris par la recherche économique depuis une vingtaine d'années, comme vous le dites dans une tribune au Monde, Arthur Jateau.
Oui, tout à fait. C'est pas seulement la lutte contre la pauvreté qui est ainsi récompensée, mais plus largement, c'est le tournant empirique que caractérise bien, par exemple, Thomas Piketty, également dans un autre style, dans un autre genre. Mais chez Esther Duflo, il y a une vraie volonté de retour aux données. Je dirais plutôt de retour aux données que de retour au terrain, parce que la place du terrain est un peu ambivalente en réalité. Mais il y a un retour aux données là où l'économie des années 80-90, c'était des modèles très sophistiqués, très économétriques, avec beaucoup de maths. On comprenait pas toujours ce qui se passait. Et là, on arrive avec des questions relativement simples et une méthode relativement simple en apparence.
Alors justement, venons-en à cette méthode. En quoi est-ce qu'elle consiste, cette méthode Pierre-Yves Joffard, qui est qualifiée d'expérimentation aléatoire?
Bah, vous savez, le modèle, il est ancien. Hein. Le modèle, c'est celui des essais cliniques en médecine, où on sait pas très bien quel est... on n'est pas sûr de l'impact d'un médicament ou d'un dispositif sur les gens qui souffrent d'une pathologie. Et ben, on va tirer au sort deux groupes de gens qui sont donc a priori très très équivalents, qui sont très très similaires parce qu'ils ont été tirés au sort. Et puis à un des groupes on va donner le traitement et à l'autre on va donner le traitement de référence ou un placebo. Puis ensuite on voit dans quel groupe est-ce qu'il y a des différences d'état de santé dans un groupe ou dans l'autre. Pour les expérimentations sociales qui ont été beaucoup développées par Jipal, par Esther Duflo, Brigitte Banerjee, Sandel Mulanathan.
Jipal, c'est le nom de leur laboratoire.
C'est le nom du Poverty Action Lab. S'inspire totalement de ces méthodes-là. C'est pas d'ailleurs des méthodes totalement nouvelles, y compris en économie. Hein. Une des très grands travaux en économie de la santé qui date des années 70, c'est une très très grande expérimentation randomisée sur l'assurance maladie. Ça reste encore aujourd'hui, 40 ans après, un des textes de référence. Donc ce sont des méthodes anciennes.
Mais qui suscitent aujourd'hui un certain nombre de critiques, et notamment sur leur généralisation, Arthur Jateau.
Oui, c'est une méthode ancienne. C'est-à-dire que quand on regarde les raisons pour lesquelles le comité Nobel a décidé de donner ce prix à Esther Duflo, ils parlent de nouvelle approche. Ils le disent à plusieurs reprises dans leur communiqué de presse. Pierre-Yves Joffard l'a bien rappelé, c'est une méthode ancienne, c'est une méthode qui a un siècle en réalité. Ça a été employé massivement aux États-Unis dans les années 70-80 et c'est passé de mode. C'est passé de mode parce qu'il y a eu des déceptions très fortes autour de cette méthode. Et c'est un peu dommage d'ailleurs que les tenants aujourd'hui de cette méthode ne regardent pas suffisamment cette histoire des expérimentations aléatoires pour apprendre notamment des limites. Et la première que vous avez citée, qui est forte, qui n'est pas propre aux expérimentations aléatoires qui traversent toutes les sciences sociales, c'est la question de la validité externe, c'est-à-dire de la généralisation. La validité externe, c'est le terme technique. C'est-à-dire dans quelle mesure ce qu'on fait au fin fond du Kenya, dans une région, sur quelques écoliers, va donner des résultats qui peuvent être généralisables à l'autre bout du Kenya, à la Tanzanie, à l'Ouganda, à un autre pays, et dans un autre contexte, à une autre époque. Et ça, cette question de la généralisation, elle est extrêmement sensible, elle est bien évidemment connue par Esther Duflo et ses collègues, mais elle est un petit peu marginalisée, elle n'est pas traitée à la hauteur de son importance, puisque si on veut tirer des connaissances en termes de lutte contre la pauvreté à partir de ces expérimentations aléatoires...
Et construire des politiques publiques,
il faut penser cette question de la généralisation. Et donc, on ne peut pas prétendre apporter des solutions en matière de lutte contre la pauvreté quand on fait uniquement des micro-expérimentations, quand bien même elles seraient aléatoires. Et c'est une première limite, une première réserve qu'on pourrait avoir sur cette méthode.
Béatrice Cherrier, vous diriez que cette méthode a fait davantage ses preuves en biologie ou en physique qu'en économie ?
Alors ça pose c'est pas tellement un problème. Alors d'abord je voudrais répondre à une chose. Donc ils en ont conscience hein, des limites de cette méthode et aujourd'hui ils travaillent à essayer de trouver d'autres manières d'essayer de comprendre dans quelle mesure ça peut être généralisé. D'une part, Esther Duflo s'est tournée vers une combinaison avec du machine learning, essayer de trouver des...
L'intelligence artificielle.
Exactement, des régularités statistiques. Et une autre piste de recherche, c'est la combinaison avec les expériences, mais les expériences de laboratoire et l'économie behavioriste qui vise à analyser un petit peu plus précisément les comportements. En revanche, le problème n'est pas dans l'utilisation de cette méthode. Évidemment qu'elle a des limites. aucune méthode n'est parfaite. Le problème est plutôt dans le fait qu'elle reflète une tendance de fond qui consiste à dire voilà, c'est la seule manière d'identifier parfaitement la causalité. Donc c'est ce que les chercheurs internationaux tentent d'appeler le gold standard. Donc c'est ce qu'on va privilégier au détriment peut-être d'autres approches de la pauvreté comme l'anthropologie économique ou d'autres, etc. Donc c'est pas vraiment un problème de méthode en soi, c'est un problème de combien de méthodes différentes on autorise à être publiées, on autorise à être débattues, etc.
Et de valorisation, effectivement, de telle ou telle méthode et de telle ou telle conclusion selon la discipline qu'il a mis au point, Pierre-Yves Joffard.
Oui, c'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est à la fois hyper intéressant et en même temps parfois très frustrant, parce que, eh bien, parfois on apprend qu'une chose a marché dans tel contexte, qu'elle a pu aussi marcher dans un autre contexte, parce que ces études sont répliquées, certaines.
Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples? Par exemple, il y avait la question de l'absentéisme des professeurs.
Ou l'absentéisme scolaire, un des grands succès de JPAL, c'est la fameuse étude sur la lutte contre les parasites intestinaux, où on a montré que le traitement des enfants contre les parasites intestinaux augmentait la participation à l'école, améliorait les résultats scolaires, et maintenant on a un recul suffisamment long pour voir que ça a profondément modifié la vie de ces enfants. Donc ça, c'est un des grands succès. Maintenant, dans certains cas, on comprend assez bien pourquoi ça marche, mais dans beaucoup de cas, on comprend pas. On sait que ça marche, dans le meilleur des cas, mais on comprend pas bien le mécanisme qui est à l'œuvre. D'une certaine manière, est-ce que c'est grave? Ben, ça dépend. C'est-à-dire, c'est grave si on veut comprendre, si on veut vraiment, et notamment si on veut étendre à d'autres contextes. En même temps, si ça marche, ça marche et ça peut améliorer la vie des gens. Donc il y a une approche qui est résolument pragmatique, au risque d'une forme d'ingénierie sociale où on va le faire parce que ça marche. Voilà, alors il vaut mieux faire des choses qui marchent que des choses qui marchent pas. Hein. Donc c'est quand même déjà ça qu'il faut rappeler.
Hein. Arthur Latou.
Oui, pour rebondir sur ce qu'a dit Pierre-Yves Joffard, je pense que comprendre, c'est une question extrêmement importante dès lors qu'on prétend vouloir conseiller le prince. Et la question avec les expérimentations aléatoires, comme l'a relevé Angus Deaton, qui lui-même a été nobélisé en économie en 2015, et totalement opposé à Esther Duflo, c'est quand même étrange, une discipline où on récompense une année quelqu'un qui est totalement opposé à quelqu'un d'autre quelques années plus tard.
Ou parfois la même année, des économistes totalement différents, c'était le cas l'année dernière.
Tout à fait, ça dit des choses intéressantes sur la discipline. Qu'est-ce que nous dit Angus Deaton? Il nous dit, les expérimentations aléatoires permettent éventuellement, de savoir si quelque chose marche, par exemple si les vers intestinaux, ça marche, mais pas pourquoi ça marche. Ça, c'est une distinction qu'on connaît très bien en médecine entre les preuves d'efficacité et les preuves de causalité. On peut savoir que quelque chose marche sans vraiment savoir pourquoi ça marche. Parce que montrer les mécanismes causaux, c'est quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Et à mon sens, les économistes qui participent à ces expérimentations aléatoires ne se donnent pas suffisamment les moyens de saisir ces mécanismes causaux. Pourquoi ? Parce que, j'en reviens à quelque chose que je disais tout à l'heure, il faudrait considérer le terrain plus en profondeur avec des outils dont vous avez parlé à l'instant, qui sont des outils qualitatifs, des outils qui viennent de l'anthropologie, de la sociologie, des sciences sociales, faire de l'observation, faire des entretiens, faire du terrain, comme on le dit en sciences sociales. Et il y a une méfiance assez forte de la part d'Esther Duflo et de ses collègues vis-à-vis des méthodes qualitatives. Il y a une croyance dans la suprématie du chiffre qui est extrêmement forte et problématique.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, Pierre-Yves Joffard, sur cette méfiance et sur cette nécessité peut-être de croiser davantage les disciplines?
C'est plutôt à Esther Duflo qu'il faudrait poser la question, savoir son rapport, le rapport qu'elle peut avoir avec d'autres sciences sociales. Dans d'autres domaines, je suis absolument convaincu qu'effectivement, sur de nombreuses questions, on a énormément de choses à gagner à travailler avec d'autres sciences sociales. Je travaille surtout sur des questions de santé. Évidemment, lire des travaux d'anthropologie, c'est important. Travailler avec des sociologues, c'est important. Travailler avec des épidémiologistes aussi.
Tous les économistes ne sont pas d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y a une ligne de fracture aujourd'hui. On a l'impression entre des économistes qui veulent mélanger les disciplines et ceux qui, au contraire, ont une vision peut-être plus mathématique de l'économie.
Je crois que c'est pas seulement la question de la mathématisation. C'est aussi la question de l'accumulation du savoir, l'accumulation des connaissances et l'augmentation du nombre de gens qui sont dans le champ, qui conduit forcément à une spécialisation au risque risque d'une forme de balkanisation du savoir. C'est-à-dire que on connaît peut-être de plus en plus de choses sur des sujets très pointus ou sur des sujets très précis, mais aujourd'hui, personne aujourd'hui n'a de vision globale, de théorie globale comme a pu le développer Keynes. C'est faux. Personne. Aujourd'hui, on l'a pas. On est dans un monde qui est très peu cartographié et c'est quand même un petit peu embêtant à la fois pour comprendre où on est, où on va et pour essayer de réfléchir à comment améliorer la situation des gens.
Béatrice Chériem.
Oui, ce que vient de dire Pierre-Yves Joffre, c'est intéressant parce que justement, Esther Duflo, elle est très, très explicite sur la volonté de ne pas penser en termes de système global. Après, on peut dire que c'est bien, on peut dire que c'est mal, mais elle a fait à l'American Economic Association, qui est une espèce de grand rassemblement de 12 000 économistes environ chaque premier week-end de janvier, elle a fait ce qui s'appelle une keynote, une grosse conférence qui s'appelle l'économiste comme plombier, et dans lequel elle revendique explicitement le fait qu'un économiste doit être chargé d'apporter des réponses au plus près des conditions institutionnelles locales, qu'il faut à la fois comprendre, par exemple, s'il faut vermifuger, s'il faut donner des moustiquaires, etc., mais aussi comment il faut le faire, par exemple. Est-ce qu'il faut demander une carte d'identité? Est-ce qu'il faut donner de l'argent en échange? Quels sont le contexte institutionnel du pays, etc.? Et donc, elle se revendique vraiment d'une méthode qui va apporter une petite réponse à, évidemment, c'est pas un petit problème, mais en tout cas, un problème qui est local. Et du coup, cette tendance des économistes, elle les empêche d'avoir des discours que Keynes pouvait avoir sur le système économique dans son ensemble. Il y a certes, ça revient au goût du jour. Hein. Par exemple, Thomas Piketty, le livre qu'il a publié le mois dernier, qui s'appelle Capitalisme et idéologie, c'est à nouveau une grosse somme sur le capitalisme. C'est très marginal et ça revient maintenant.
Pour vous le demander un peu brutalement, Arthur Jatteau, est-ce que il faut voir dans l'attribution de ce prix Nobel une plus grande ouverture du comité à des travaux qui se démarque d'une vision orthodoxe selon laquelle les agents économiques seraient des individus essentiellement rationnels, ou est-ce que c'est le contraire qui s'est passé?
Non. La réponse est non. Je pense qu'il n'y a aucune inflexion dans l'attribution des prix du comité Nobel. Ça s'inscrit dans une certaine continuité. Pour rebondir sur ce qu'a dit Béatrice Chériem, effectivement, l'image d'Esther Duflo comme plombier, c'est une image... Enfin, elle l'emploie très souvent. Hein. Elle l'emploie très souvent, mais c'est symptomatique. Hein. Vous pouvez demander à un plombier de réparer votre chauffe-eau, mais vous pouvez pas lui demander de construire votre maison. Pour ça, il faut un architecte. Et c'est un peu le problème avec cette économie-là. On va se centrer sur des micro-problèmes pour apporter des micro-solutions, mais on va pas penser les choses globalement. Et si l'on prétend lutter contre la pauvreté, on peut pas faire l'abstraction de regarder les choses plus largement en adoptant une vision qu'on pourrait qualifier, même si le terme est moins à la mode aujourd'hui, d'économie politique. Il y a cette idée chez Esther Duflo et chez ses collègues, avec les expérimentations aléatoires, de traiter les conséquences de la pauvreté, mais sans s'interroger suffisamment sur les causes.
Cette volonté d'ouvrir les cursus aux autres sciences sociales, c'est une revendication du réseau dont vous êtes membre, le réseau PEPS Économie, donc qui se bat pour un enseignement pluraliste dans le supérieur en économie. Béatrice Chériem, vous diriez aujourd'hui qu'il y a effectivement dans l'enseignement de l'économie un manque de pluralisme en France?
Est-ce que je peux répondre à votre question?
Bien sûr.
Sur orthodoxie et hétérodoxie? Donc effectivement, c'est un prix qui est très orthodoxe. Par contre, pour répondre à votre question sur l'agent rationnel, ça montre qu'il y a un changement dans la définition de l'orthodoxie. C'est-à-dire que elle se préoccupe pas de savoir vraiment si l'agent est rationnel ou pas rationnel. De toute façon, il commence à y avoir des tas de réflexions qui intègrent la psychologie sur comment se comportent vraiment les gens sur le terrain. Ce qui devient orthodoxe, c'est la bonne méthode. Et là, encore une fois, c'est un prix qui récompense une méthode d'identification des causalités qui est nette, qui emprunte à la médecine, etc. Et c'est ça la nouvelle orthodoxie. C'est si la méthode est bonne, pas vraiment si les hypothèses sont bonnes comme auparavant.
Et alors sur cette question du pluralisme dans l'enseignement?
Alors c'est une question qui est extrêmement compliquée. Donc c'est clair qu'il y a une standardisation des cursus en France déjà. C'est-à-dire que on peut se poser la question qu'est-ce qu'il faudrait, et on peut aussi se poser comme qu'est-ce qu'il faudrait apprendre à un étudiant en économie ou une étudiante en économie, et est-ce qu'il faudrait que toutes les universités apprennent la même chose? Et c'est de plus en plus le cas. Donc on a une disparition des approches hétérodoxes, on a une disparition de l'histoire, c'est plus enseigné, on a une disparition de la philosophie économique.
Vous avez redéfini le terme d'orthodoxe. Est-ce que vous pourriez définir pour nous le terme d'hétérodoxe?
Les hétérodoxes, en fait, c'est une notion que les personnes qui ne se reconnaissent pas dans, pour en donner une définition qui est assez sociologique, ce qui se publie dans les 5 meilleures revues du champ, parce que c'est un champ qui est extrêmement hiérarchisé, donc les revues et publiées dans les les revues, c'est ce qui fait une carrière, en fait, sont classés par le CNRS en catégorie 1, 2, 3, 4. Il y a les 1 étoiles, et dans les 1 étoiles, il y a le top 5 qui vous assure une carrière d'un rang international. Et en fait, ce qui définit ce que c'est que l'orthodoxie, c'est ce qui est publié dans ces 5 revues. Par exemple, le genre de travaux que fait Esther Duflo, les expériences randomisées, etc. Et ce qui n'est pas publié dans ces 5 revues, c'est de moins en moins présenté, c'est de moins présenté dans les curriculums, et c'est là qu'on peut se poser la question de... Donc ça, c'est un fait. C'est là qu'on peut se poser la question de est-ce que c'est une bonne tendance ou est-ce que c'est une tendance qui est problématique.
Est-ce qu'il y a une ligne idéologique de l'hétérodoxie?
Une ligne idéologique de l'hétérodoxie? Ah non, alors il y a des hétérodoxies qui sont très... il y a des hétérodoxies qui sont très interventionnistes, par exemple les post-keynésiens, et il y a des hétérodoxies qui sont très en faveur du marché, par exemple les autrichiens. Donc par contre, justement, l'hétérodoxie, elle se définit plutôt comme refuser les méthodes, donc ce genre de méthode-là, et la mathématisation, etc., plutôt que par une idéologie donnée.
C'est avant tout une différence de méthode et non d'idéologie, vous êtes d'accord avec cela, Pierre-Yves? Qui sépare orthodoxe et hétérodoxe?
Moi, honnêtement, j'en sais rien. Je trouve que c'est des débats qui sont pas très intéressants. Je trouve que les débats plus intéressants, c'est quel est le rapport aux données, quels sont les rapports au terrain, quelles sont les articulations avec d'autres sciences sociales. Ça, là, on pose des questions qui sont mieux définies. Hétérodoxe, orthodoxe, bon, c'est un débat très franco-français, pas seulement, mais enfin quand même.
Ça permet de poser la question du pluralisme. Et vous avez été directeur de la Paris School of Economics. Cette question, elle s'est posée encore plus.
Bien sûr, par exemple, ce qu'on a fait, c'est que dans nos formations, depuis déjà 15 ans, on a introduit des cours d'histoire économique obligatoires pour essayer et ça c'est important. C'est important. Moi je rêve d'étudiants qui arriveraient en master en ayant une double formation en licence, qui soit pas forcément en économie d'ailleurs, mais qui soit en maths et en histoire. Là on a une ou dans d'autres et qui soit aussi frotté à d'autres sciences sociales, mais avec une connaissance de l'histoire, une compréhension des mécanismes historiques et une aptitude à abstraire et à formaliser, on peut être très très bien équipé pour analyser les sociétés à travers les méthodes que propose l'économie, sans s'interdire d'utiliser et d'exploiter d'autres méthodes que proposent les autres sciences sociales, les méthodes qualitatives, des méthodes autres. Évidemment, elles nous apprennent des choses qui sont complémentaires. Je crois qu'on a plus de choses à se dire les uns les autres que des mots d'oiseau.
Et en même temps, il y a ce constat qui est fait, et qui n'est fait d'ailleurs pas seulement en France, aussi en Allemagne, au Canada, autour de ce manque de pluralisme, Arthur Jatin.
Alors, le manque de pluralisme dans l'enseignement, il est incontestable. Vous avez parlé de l'histoire économique. L'histoire économique, c'est une des matières qui est les moins enseignées dans les licences d'économie. On avait fait une étude avec le collectif PEPS Économie à l'époque où j'y participais. On en a fait une aussi à l'international. Les résultats sont très proches, hein, en réalité. Par exemple, en France, l'histoire de la pensée économique, dans les licences, c'est environ 2% des cours. Les cours quantitatifs, mathématiques, statistiques, c'est environ 20% des cours. Donc on fait 10 fois plus en France dans les licences de cours de méthodes quantitatives que de cours d'histoire de la pensée économique. Et l'épistémologie n'est enseignée nulle part. Alors, quand on a fait l'étude, je doute que ça ait beaucoup changé jusqu'à maintenant. Donc le manque de pluralisme dans l'enseignement, il est très clair.
Et comment est-ce que vous l'expliquez ça?
Alors, comment on peut l'expliquer? Je pense, moi, que la question entre orthodoxie et hétérodoxie, elle n'est pas vaine. Hein. La première réponse qu'a fait ma collègue sur le plan sociologique est la réponse la plus évidente. Sociologiquement, en France, mais comme dans d'autres pays, il y a une orthodoxie et une hétérodoxie, ou plutôt des hétérodoxies, avec des gens pour qui il est plus dur de s'insérer professionnellement, de publier dans des revues bonnes ou pas bonnes, suivant les critères académiques.
Mais encore une fois, à cause de leur méthode et pas de leur ligne idéologique.
Ah, je ferai pas une frontière si franche entre les deux à cause des méthodes, de leur approche de l'économie qui fait une part plus importante à la question des institutions, à la question des structures sociales, avec une place plus importante accordée à l'interdisciplinarité, à l'histoire, à la sociologie, aux sciences sociales de manière générale, et dans l'orthodoxie, mais pas chez tous les orthodoxes. C'est pour ça que ce clivage ne se recoupe pas totalement. La place du marché, de l'individu rationnel, calculateur est plus importante, elle fait plus partie de la définition chez les orthodoxes que chez les hétérodoxes. Donc la question du pluralisme, elle est vive, c'est un combat qu'il faut mener pour que survivent des approches, des paradigmes, des théories différentes. Mmh. Parce qu'il serait extrêmement prétentieux de penser qu'une seule théorie du monde social, qu'une seule théorie de l'économie serait à même de l'expliquer. Il faut une approche pluraliste sur le plan théorique, sur le plan disciplinaire, sur le plan épistémologique, etc.
Mmh. C'est intéressant de constater, Béatrice Cherrier, que ces mouvements de critique vis-à-vis du manque de pluralisme dans l'enseignement sont nés dans différents pays. Vous partagez à la fois ce diagnostic et les explications de ce manque de pluralisme que nous a exposé ici Arthur Jatteau.
Je pense qu'il y a des... comme je le disais, je pense qu'il y a des causes externes qui sont très importantes. Enfin, il y a des tendances qui poussent à la standardisation. Encore une fois, j'en reviens aux publications, mais pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est très difficile de savoir si la volonté, elle est plutôt interne ou elle est plutôt d'exclure, ce qui n'est pas forcément le cas. En tout cas, c'est clair que maintenant, les universités en France, elles regardent leur classement de Shanghai, elles sont toujours en train de faire des posts sur leur site pour dire qu'on a progressé dans le classement de Shanghai, c'est fantastique, etc. Et comment on progresse? On progresse en publiant dans les meilleures revues. Et comment on publie dans les meilleures revues? En fait, au lieu de se poser des vraies questions, on essaye de regarder ce qui marche comme méthode et de trouver un problème qui marche et un type de données qui marche sans que ce qui est récompensé par exemple par le prix Nobel soit une critique. En fait, le problème c'est plutôt en fait ces comportements moutonniers qui sont encouragés par ce système d'incitation dans lequel les chercheurs partout dans tous les pays vivent aujourd'hui.
Ce qui sépare souvent orthodoxe et hétérodoxe, c'est la vision du marché. Est-ce qu'il est il a une capacité à s'autoréguler ou non? Et au moment de la crise des subprimes en 2008, ce qui avait été mis en avant, c'est peut-être justement les limites de la capacité à des marchés à s'auto-réguler. Est-ce que vous diriez, Arthur Jatteau, qu'il y avait eu alors une certaine ouverture et qu'on est peut-être revenu aujourd'hui à une certaine orthodoxie économique?
Oui, je pense qu'on pourrait dire ça. Hein. Si on en juge aussi bien par les publications que par les enseignements, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Alors, ça peut être un peu à la marge, ça peut être introduire un cours d'histoire économique, par exemple. Ça, c'est des petites choses qui peuvent changer, mais fondamentalement, ça n'a pas changé. Hein. Ce qui peut être étonnant quand on voit qu'un des économistes français les plus médiatiques, les plus brillants, c'est Thomas Piketty, qui lui-même aujourd'hui ne se définit plus comme économiste, mais comme chercheur en sciences sociales. Et donc ça, c'est assez saisissant. Et pour rebondir sur ce que disait ma collègue, effectivement, il y a une pression à la publication qui est extrêmement forte dans le champ de l'économie, mais dans le champ de la recherche en général. Et on va essayer de publier non seulement ce qui marche, mais aussi ce qui est original, ce qui n'a jamais été fait. Et ce qui peut poser un problème dans le cas des expérimentations aléatoires à la Duflo, on va chercher non pas ce qui est le plus pertinent sur le plan du développement, sur le plan de la lutte contre la pauvreté, mais ce qui a le plus de chances d'être publié et dans les meilleures revues. Et donc on va aller chercher des idées originales, mais pas forcément pertinentes ou généralisables.
France Culture. Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Roquigny.
Pierre-Yves Joffard, Béatrice Cherrier et Arthur Jatteau sont toujours avec nous pour parler de l'état de la recherche en économie en France et à l'étranger. Alors je le disais en introduction, c'est seulement la deuxième fois qu'une femme est récompensée par le prix Nobel d'économie. Et comme en 2009 avec Elinor Ostrom, il s'agit d'une récompense collective. Béatrice Cherrier, vous vous êtes intéressée à la place des femmes dans la discipline. Alors les économistes sont-ils sexistes, pour reprendre le titre de votre article?
Oui, alors ce ne sont pas les seuls. Hein. C'est un problème dans les sciences de manière générale.
Le sont-ils encore plus que les autres?
Alors Pour les chiffres américains, le taux de représentation et des étudiantes et des maîtres de conférences, donc des enseignants, des professeurs, chercheurs, débutants et de ce qu'on appelle les full professeurs ou des professeurs des universités, est plus faible que dans les autres sciences, y compris la physique, les mathématiques, etc. Le trio qui clôt le classement, c'est l'économie, les sciences de l'informatique et l'ingénierie. Donc l'économie est bien inférieure encore aux sciences sociales. Donc on sait, on a des études justement empiriques, c'est-à-dire que les chercheurs et les chercheuses surtout en économie ont essayé d'utiliser les nouveaux outils empiriques pour essayer de démontrer ces biais de genre. Et donc elles ont montré par exemple que quand une femme publie un article, elle est tenue à des standards de publication qui sont plus élevés que ceux d'un homme. Elle doit écrire mieux pour pouvoir publier dans la même revue, etc. Que quand un homme et une femme coécrivent un papier, en fait l'homme a plus de crédit que la femme, et notamment ça va jouer dans la décision de lui donner une promotion. etc. Que il y a aussi beaucoup d'études, notamment par des Françaises, sur le fait que à compétences égales, une enseignante soit moins bien évaluée par les étudiants qu'un homologue masculin. Donc on a tout à fait documenté ce genre de problème.
Et justement, ce problème est documenté depuis un certain temps. Comment expliquer, malgré peut-être un certain nombre de mesures qui ont été mises en place, Pierre-Yves Joffard, que la féminisation de la discipline soit toujours aussi lente? Et est-ce que d'ailleurs c'est le cas autant aux États-Unis qu'en France?
Alors c'est une question importante. J'essaie d'appliquer une règle, de m'appliquer une règle, c'est de ne jamais accepter une invitation sur un plateau ou une table ronde s'il y a que des mecs. Et ça, je pense que si déjà tout le monde dans la profession appliquait cette règle, peut-être que ça changerait quelque chose. Je trouve que la diversité est importante. Les biais de genre sont évidemment très très importants. Il faut essayer d'en être le plus conscient possible. D'où ça vient? D'où vient le peu d'attrait de la discipline pour des jeunes étudiantes? Je crois que ça dépend aussi beaucoup des domaines de la recherche en économie, hein. Vous avez des domaines où le tableau n'est pas si sombre que ça. Alors ce sont pas forcément les domaines qui sont considérés comme les plus nobles par l'aristocratie de la profession.
Justement, les problématiques sociales ou de lutte contre la pauvreté.
Voilà, sur l'économie du travail, l'économie du développement, l'économie de la santé, de l'éducation, de la famille. Tout ça sont des thèmes où la féminisation est un peu moins faible que, par exemple, en macroéconomie ou en théorie économique.
Mais donc les femmes sont peut-être cantonnées à certains domaines, en l'occurrence Arthur Jatteau.
Oui. Alors c'est sûr, le problème de la domination masculine qui est présent dans toute la société, évidemment il touche l'économie, et il est exacerbé dès lors qu'on parle d'argent. Il y a une espèce de loi sociale, on sait que là où il y a de l'argent, il y a moins de femmes. Vous prenez les métiers les plus rémunérateurs, et ben c'est les métiers où on trouve le moins de femmes. Et les métiers les moins rémunérateurs, c'est là où il y a le plus de femmes généralement. Vous prenez les métiers comme assistante maternelle, les aides à la personne, etc. Tous les métiers du soin, qui sont des métiers quand même extrêmement importants, ce sont des métiers les moins bien rémunérés. Et les métiers comme dans la finance, les traders, etc. Là, les femmes sont très représentées. Et je pense que cette question, elle touche l'économie, mais elle est aussi plus large. Par exemple, au niveau du vocabulaire, au niveau des mots employés, il y a quelque chose dans le domaine de l'enseignement et de la recherche qui a fait son apparition, qui est la féminisation des titres dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on dit maîtresse de conférence. Moi, quand je faisais mes études d'économie à 10 ou 15 ans, je n'avais jamais eu de maîtresse de conférence en cours. J'avais eu des maîtres de conférence qui étaient des femmes. Mmh. Et donc aujourd'hui, on progresse un peu dans cette voie, et c'est sans doute insuffisant.
Ça progresse un peu, mais c'est toujours aussi lent et on a du mal à comprendre pourquoi, Béatrice Chiari.
Alors je pense qu'il y a quand même un problème qui est spécifique à l'économie. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est dans une période de reconnaissance d'une certaine conscience de genre. C'est pas la première fois que ça se produit. Alors c'est un mouvement très large dans la société, mais il y a déjà eu un mouvement très large dans la société dans les années 70, et les scientifiques y ont participé, et les économistes y ont participé. Et donc on travaille sur les archives de ce moment, et ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a quand même, quand on réfléchit sur la place des femmes en économie, ce qu'on se pose comme question, c'est la question de: est-ce que le marché du travail des économistes fonctionne bien? Et les économistes, eux, ils travaillent sur les fonctionnements du marché du travail. Et il y a toute une partie des économistes qui ne croient pas, par exemple, que la discrimination soit un phénomène qui soit permanent. C'est ce qu'on appelle les théories beckeriennes. Ça consiste à dire que si une femme est discriminée alors qu'elle est douée, bah forcément quelqu'un va l'embaucher et du coup va avoir de meilleurs résultats, et donc la discrimination va disparaître. Et donc les économistes, je pense qu'il y a quand même quelque chose en économie qui est à l'arrière de leur tête. Les économistes ont souvent des préconceptions sur l'efficacité du marché du travail, y compris le leur, et se disent au bout du compte, bah en fait une femme, s'il n'y a pas plus de femmes en économie, c'est soit qu'elles sont moins douées, soit qu'en fait leur préférence, c'est-à-dire ce qu'elles attendent dans la vie, ça les pousse à pas vouloir ce genre de métier, et donc il n'y aurait pas grand-chose à faire. Et c'est vrai que après ce mouvement dans les années 70-80, il y a eu un espèce de backlash, puis ça a stagné, et puis les chiffres de représentation féminine ont à nouveau diminué, parce qu'on s'est complètement endormi, peut-être parce qu'on pense que le marché est pourvoira, quoi.
En l'occurrence, le gouvernement français a lancé en mai un plan d'action sur l'égalité homme-femme dans l'enseignement supérieur et la recherche. Qu'est-ce qu'il faut en attendre, Pierre-Yves Joffard? Et encore une fois, est-ce que vous diriez que les choses avancent un peu plus vite, peut-être du côté des États-Unis par rapport à la France, ou est-ce que ce n'est pas le cas?
Non, ça, j'en ai pas la moindre idée. Dans ces mesures, oui. Alors, on fait des choses, mais parfois, vous savez, il y a parfois il y a des des décisions qui sont ambiguës, dont l'effet est ambigu. Je pense à la, la parité, par exemple, qui maintenant est exigée dans la plupart des commissions de spécialistes, de jurys, de ci, de ça, etc. En discutant avec certaines, certaines collègues, étant donné qu'elles sont moins nombreuses que, et notamment plus on monte dans l'hiérarchie, c'est-à-dire que le taux de féminisation est encore plus faible chez les professeurs que chez les maîtres et maîtresses de conférences. Il y a de la part de certaines collègues une lassitude, elles n'en peuvent plus. C'est-à-dire qu'elles sont tout le temps sollicitées. Elles sont si peu nombreuses, et comme il faut des jurys paritaires, ça peut poser problème, quoi. C'est-à-dire que là, on va se dire, la plus faible publication, elle est liée au fait que, elles sont mobilisées, quasi temps plein pour compléter des jurys paritaires. Donc, il faut vraiment s'interroger sur les outils pour essayer de pallier ça, hein. C'est pas simple du tout. Moi, j'ai pas aucune réaction. Je pense simplement qu'il faut agir le plus en amont possible. C'est-à-dire que, le plus en amont possible par l'éducation pour convaincre le plus tôt possible des jeunes lycéennes que ce sont des études où elles peuvent très bien réussir, où elles peuvent apporter des enseignements très intéressants.
Est-ce que vous avez des propositions pour améliorer les choses,
Béatrice? Pour rebondir là-dessus sur les étudiants, deux pistes qui semblent prometteuses pour l'instant. Donc il y a tout ce qui est mentoring. Enfin, en fait, pour les étudiantes, le fait de voir des femmes, donc tout simplement d'avoir des mentors. Et on a mis en place on a fait justement des expériences aux États-Unis. On a mis en place des programmes de mentors pour une partie des étudiantes et pas pour une partie des autres. Et effectivement, ça les aide clairement à continuer de voir une femme professeure et puis une femme qui explique comment ça marche dans la profession. Et puis il y a aussi le problème des manuels, c'est-à-dire que si dans les manuels il n'y a pas une femme, ou que la seule femme qui a clairement c'est la personne qui reste au foyer, qui éduque les enfants ou qui consomme, et que par contre c'est l'homme qui travaille et c'est l'homme qui entreprend, et ben ça pose vraiment un problème. Donc il commence à y avoir une réflexion là-dessus.
Vous parliez du marché du travail dans le secteur de la recherche en économie. En 2014, dans le top 25 des économistes d'avenir qui avait été établi par le FMI, il y avait 7 Français. Et sur ces 7 économistes, un seul, Thomas Piketty, travaillait en France. Alors avant de se demander pourquoi les chercheurs français partent aux États-Unis, un mot peut-être d'abord sur cette excellence française en économie. Comment est-ce qu'on l'explique, Pierre-Yves Joffard?
C'est comment on l'explique? D'abord, avant de chercher à l'expliquer, on peut s'en réjouir, hein, on peut se permettre 2 secondes de cocorico. Je crois que ça s'explique parce que les formations françaises, qui sont la formation française, on va pas dire que le système éducatif français est un modèle dans toutes les dimensions, mais en tout cas, il y a une chose que le système d'éducation français fait bien et a fait bien, en tout cas pendant très longtemps, c'est la sélection. Le repérage et la sélection des élèves les plus doués en maths. Et ça, c'est un peu comme les bons joueurs d'échecs en URSS. Hein. Il y avait tout un système de maillage qui faisait que... Et ça, ce sont des formations qui donnaient un des éléments, pas le seul, mais au moins un des éléments très utiles pour aborder l'économie telle qu'elle s'enseignait dans... Après, il y a un phénomène singulier aussi qui s'est passé, c'est que vous parlez de ces 7 économistes qui ont été distingués il y a quelques années, tous... sauf un, je crois, ont eu comme professeur Daniel Cohen à l'École normale supérieure. Et je crois que l'influence d'un bon professeur et d'un professeur qui arrive à faire partager son enthousiasme pour la recherche, qui arrive à faire partager sa curiosité pour les différentes questions du monde et à convaincre que ces méthodes, que par ces méthodes économiques, on peut apprendre des choses, on peut essayer d'améliorer les politiques publiques et in fine la situation des gens. Je crois que ça a énormément contribué à construire toute une génération d'économistes français qui aujourd'hui sont effectivement au top, on va dire, au plus haut de la discipline.
Et alors, est-ce qu'ils sont, à quel moment exact se passe vraiment cette montée en puissance? Parce que ce qu'on peut entendre de la part de certains économistes français, c'est aussi qu'ils sont devenus bons parce que il y a aussi une émulation très forte dans les universités américaines, Béatrice Cherrier.
Alors, c'est pas les universités américaine, il y a beaucoup, donc je partage tout à fait ce qui a été dit, notamment sur les mathématiques, hein. C'est quand même un outil que la France est excellente à enseigner, et différents types de mathématiques, que ce soit l'école bourbakiste qui est extrêmement théorique, et Gérard Debreu qui était un des prix Nobel français, représente cette école, et ce qu'on appelle les mathématiques d'ingénierie, Ces personnes qui partent aux États-Unis, elles sont souvent formées dans des grandes écoles, et en particulier des grandes écoles d'ingénieurs. Et Jean Tirole, par exemple, il a été formé comme ingénieur en partie. Et quand est-ce qu'ils partent? En fait, il y en a beaucoup qui partent déjà faire leur thèse aux États-Unis. Ils partent pas n'importe où. Il y en a beaucoup qui sont allés au MIT. C'est là qu'Esther Duflo a fait sa thèse. C'est là qu'Emmanuel Saez, qui a eu la John Bates Clark, qui est une reconnaissance du meilleur économiste en poste aux États-Unis, moins de 40 ans, reçoit, qui est souvent comprise comme l'antichambre du prix Nobel, a été au MIT aussi. Donc,
le Massachusetts Institute of Technology.
Exactement. Donc, ils forment énormément des futurs prix Nobel. Donc, ils font non seulement leur thèse là-bas, il y a de l'émulation. Et puis, ce qu'on explique ensuite, c'est que bah, là-bas, ils ont la possibilité de se concentrer sur leur recherche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette somme de travail administratif qu'on demande à absolument tous les enseignants chercheurs français. Même quand vous allez faire des recherches là-bas, vous avez du personnel qui est là pour vous aider à trouver vos données, pour nous, c'est les archives, ou à les collecter, etc.
C'est l'une des critiques qui est faite à la recherche en France actuellement, Arthur Jatteau, c'est le manque de temps lié notamment à des contraintes administratives que doivent assumer les chercheurs.
Alors ça, c'est complètement abyssal. Moi, j'ai été nommé en septembre 2017 comme maître de conférence. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'une part significative de mon travail soit consacrée à ce point à des tâches administratives. Donc ça, évidemment, c'est du temps en moins pour l'enseignement et pour la recherche. Ça tient aussi à la façon de financer aujourd'hui la recherche publique, comme à ma connaissance, ça ne se faisait pas il y a 20 ans, qui est de faire des appels à projets en permanence. Donc si on veut avoir des financements, il faut répondre à des appels à projets. Mais répondre à des appels à projets, c'est monter des dossiers de dizaines de pages avec
un mois de travail.
Voilà, c'est ça. C'est à peu près un mois de travail, parfois plus, avec un vocabulaire technique qu'il faut maîtriser. Moi, dans mon laboratoire, il y a quelqu'un qui est embauché à temps plein, quelqu'un de très bien, pour nous aider à monter des projets. On passe des mois dessus avec des taux de réussite qui sont de l'ordre de 10%. Donc ça, c'est vraiment compliqué de faire de la recherche dans de bonnes conditions. Je voudrais juste émettre un petit bémol sur ce qui a été dit tout à l'heure. Je ne vais pas casser l'ambiance sur l'excellence à la française. Mais l'excellence telle qu'on en parle depuis tout à l'heure, c'est une certaine forme d'excellence. Celle qui est reconnue par les universités de la Ivy League, par les revues académiques qui sont les plus cotées par la profession, mais qui passe sous silence un certain nombre d'économistes qui, à mes yeux, sont tout aussi excellents, mais qui ne rentrent pas dans ces standards internationaux. Je prends pour exemple une des grandes écoles théoriques de la seconde moitié du XXe siècle, c'est une école qui a été faite par des Français, l'école de la régulation, avec des gens comme Boyer, Aglietta, etc., qui ne rentrent pas du tout dans les cadres qui sont aujourd'hui les standards internationaux, où la place dans la bibliométrie, c'est-à-dire la façon de classer les publications des économistes, fait la part belle aux articles au détriment des livres. Et ça, je voudrais insister là-dessus. Aujourd'hui, les économistes, et notamment les économistes excellents au sens académique du terme, n'écrivent plus de livres. Hein, Thomas Piketty, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Aujourd'hui, on vous le dit, si vous voulez être recruté, si vous voulez avoir un poste, il faut faire des articles, mais surtout n'écrivez pas de livres. Ça devient mal vu.
Alors Pierre-Yves Lefebvre, vous n'avez pas l'air d'accord.
Non, mais non, parce que si on regarde parmi les grands économistes reconnus par la profession, que ce soit Acemoglou, Thomas Philippon récemment, Robinson, etc., ils le font à un certain moment.
C'est pas ça qui fait qu'ils sont considérés comme des bons économistes.
Qui, à mon avis, est plus intéressante, c'est la question des tâches administratives, parce que c'est effectivement ça me paraît alors plus intéressant en tout cas pour nous, parce qu'elle nous frappe directement. Et c'est vrai que le basculement, le changement du mode de financement. Il faut savoir que traditionnellement, les laboratoires, les équipes de recherche étaient financées par des dotations de base et qui permettaient de faire de voyager un petit peu, d'inviter des collègues, etc. Et qu'aujourd'hui, si on a besoin de sous, il faut aller les chercher.
C'est la différence entre les crédits de base, effectivement, et les crédits dits compétitifs.
Voilà, sur appel à projet. Mais le fait que les chercheurs consacrent une partie importante de leur temps à l'administration, ce n'est pas une fatalité. Il faut aussi savoir qu'il y a une possibilité de mieux faire les choses à condition de faire ce qu'il faut. C'est-à-dire, nous, ce qu'on a essayé de faire à l'École d'économie de Paris depuis 10 ans, eh ben, c'est de monter des équipes, de recruter des équipes de personnel support, de personnel administratif, qui nous aident à monter des appels à projets, qui nous aident non seulement à les monter, mais à les suivre. La division du travail, c'est un principe reconnu comme par la plupart des économistes, hétérodoxes ou orthodoxes, comme ayant du sens. sens.
Oui, mais ça nécessite de l'argent, et c'est ce qui manque aujourd'hui.
Le problème, c'est d'amorcer la pompe. Le problème, c'est de recruter des gens très compétents, de les valoriser, de les rémunérer correctement, ce que ne permettent pas aujourd'hui les grilles de la fonction publique.
Mais justement, alors, est-ce que c'est un problème de manque d'argent ou est-ce que c'est seulement un problème de manque d'argent, Béatrice Charrier?
Les deux, mon capitaine.
Alors, il y a un problème de manque d'argent et du coup, ça risque de créer, c'est en train de créer un système à deux vitesses entre certaines universités qui sont mieux dotées ou qui, elles, en tant qu'université, ont les moyens d'aller elles-mêmes aussi, parce que ça touche pas que les chercheurs, ça touche aussi les universités, le fait de ramener des crédits compétitifs et qui donc vont pouvoir financer des personnels de support et des universités qui sont souvent des universités de province qui sont complètement asséchées, qui ont déjà pas les moyens de remplacer leur personnel d'enseignement et pour qui, en gros, on va vous faire comprendre que ben là, vous êtes pas recruté dans une université de recherche. Alors, ça existait pas, hein, jusqu'à maintenant, c'était un système américain dans lequel on avait université de recherche, université d'enseignement et ça commence à apparaître en France. On vous fait comprendre que bah, non seulement vous allez enseigner, mais vous allez prendre des heures supplémentaires, puis trois tâches administratives et qu'il n'est absolument pas question d'embaucher ces personnels parce qu'on n'arrive déjà pas à remplacer les personnels enseignants.
Voilà. Et ça a un effet réel sur la recherche. Il y a aujourd'hui un consensus sur la situation alarmante dans les laboratoires et un consensus sur le fait qu'il faut au moins de toute façon plus d'argent, Arthur Jatteau.
Ça, c'est une certitude et je séparerai pas la question de la recherche et de l'enseignement supérieur. Hein. Il suffit de, si vous voulez venir voir un jour nos amphithéâtres à l'université de Lille où les vidéoprojecteurs marchent une fois sur deux, nous, parfois, on se sent humilié, on a honte d'enseigner dans les conditions qui sont celles-là. Donc, enseignement supérieur et recherche, ça marche ensemble. Je pense pas que le financement par projet soit une solution parce qu'on en vient à recruter des gens, à payer des gens pour qu'ils nous aident à avoir de l'argent. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Et surtout, pour faire de la recherche de manière libre, pour pouvoir développer ses propres sujets sans être inféodé à des modes, à des gouvernements qui vont financer telle ou telle recherche, bah, il est important d'avoir de l'argent sans répondre.
C'est la question qui se pose, c'est-à-dire effectivement, est-ce que ça a un impact sur le type de recherche, des recherches de plus court terme, recherches de plus long terme?
Oui, bien sûr, tout à fait. C'est effectivement cet impact-là.
Et en même temps, les crédits dits compétitifs sont permis aussi. Enfin, on peut y accéder grâce au Conseil européen de la recherche. Et ça, c'est quelque chose qui a permis de fortement augmenter les financements en Europe, Pierre-Yves Joffard. La création de ce Conseil européen de la recherche.
Oui, alors de l'augmenter, encore une fois, avec une sélectivité extrêmement, extrêmement forte, hein, et donc une concentration des moyens sur un certain nombre d'équipes, un certain nombre de projets, avec des montages de dossiers qui sont très, très lourds, avec des suivis qui sont également très lourds. Mais oui, ça c'est... Écoutez, je suis moi-même lauréat depuis une semaine d'un projet de l'IRC sur les genres et inégalités de santé, avec des collègues sociologues et épidémiologistes. Donc je me réjouis de l'existence de l'IRC, hein, qui finance de très beaux projets. Mais c'est vrai que c'est du boulot pour aller décrocher ces... Sur 400 projets, il y en avait 30 qui étaient sélectionnés. Mais ça peut aussi financer... Mon exemple est au-delà de l'auto-congratulation. Mon exemple vise aussi à dire que le Conseil européen de la recherche peut aussi, dans ses institutions, financer des travaux pluridisciplinaires. C'est l'objet même, ce qui manque peut-être un petit peu dans les structures françaises. En fait, il y a certains financements qui sont disponibles au niveau européen et qui ne seront pas forcément disponibles au niveau français.
Mais la question qui se pose, c'est effectivement, est-ce que ça a un impact négatif sur la recherche en économie et sur la recherche en général? Il y a un classement qui est fondé sur la production d'articles de recherche publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture. Selon ce classement, la France, qui avait déjà été dépassée par l'Inde, serait maintenant dépassée par l'Italie, Béatrice Chéri. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de ce genre de classement? Est-ce que réellement, on peut parler d'une régression aujourd'hui de la recherche en France?
Non, absolument pas. Non, pour le coup, c'est vraiment des effets pervers de la mesure. D'abord, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond, on ne sait pas ce qui est mesuré. Et puis, comme Arthur Jatteau l'a dit tout à l'heure, l'ouvrage de Piketty, le précédent, qui s'est quand même vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, il apparaît même pas là-dedans, quoi. Ça ne compte pour rien. Voilà, exactement. Donc ça compte des choses qui sont assez standardisées, assez particulières et qui transmettent pas la qualité de la recherche en France.
Il y aurait eu beaucoup d'autres questions qu'on aurait pu aborder dans cette émission, mais c'est la fin de ce débat. Merci à tous les trois, Pierre-Yves Joffard, Béatrice Charrier, Arthur Jatteau, de nous avoir apporté vos lumières sur l'état de la recherche, en particulier en économie. On mettra les références de vos articles et de vos tribunes sur la page de l'émission, sur le site de France Culture. Un grand merci. Pain de Shadé, vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, et tout de suite c'est l'heure de la bibliothèque de l'écho. Il y a un peu plus de deux ans, en mars 2017, était votée en France une loi unique au monde, la loi sur le devoir de vigilance, une réponse à la mobilisation qui avait suivi le drame du Rana Plaza, cet accident industriel qui avait causé la mort de 1138 ouvriers et ouvrières du textile. C'était en 2013 au Bangladesh. Aujourd'hui, le journaliste Olivier Petitjean tente de faire un premier bilan de cette loi dans son ouvrage intitulé « Devoir de vigilance, une victoire contre l'impunité des multinationales » paru aux éditions Charles Léopold Mayer. Marguerite Caton l'a rencontré.
Donc la loi elle a été adoptée formellement en 2017. En 2018, les entreprises concernées, c'est-à-dire quelques centaines de grandes entreprises françaises ou implantées en France, devaient publier ce qu'on appelle un plan de vigilance. Et à partir de cette année, la société civile, les syndicats, toute personne impactés par leurs activités, avaient la possibilité de d'abord les mettre en demeure sur le contenu de leur plan de vigilance et éventuellement de saisir un juge. Donc là, on est vraiment en plein dans ce processus parce que depuis donc le mois de juin, il y a eu 5 mises en demeure au total dans le cadre de la loi sur le devoir de vigilance. Et dans les jours qui viennent, on va probablement voir les premières saisies formelles de la justice.
Pour quelles entreprises ?
Alors les 5 qui sont concernées, donc il y a deux procédures qui visent Total pour deux raisons différentes. La première, c'est une procédure initiée par les Amis de la Terre et Survie et des ONG en Ouganda au sujet des activités de Total dans le pays. Total est en train d'ouvrir un champ d'extraction de pétrole et de construire un oléoduc qui occasionne à la fois des risques pour la biodiversité et des déplacements de population. Donc c'est autour de ces enjeux-là. Et le deuxième qui cible Total est beaucoup plus général. En fait, c'est dans la lignée de tous ces procès qu'on voit aux États-Unis et dans d'autres pays de collectivités locales sur l'enjeu climatique contre les multinationales pétrolières en leur disant « vous ne faites pas assez pour le climat, même vous retardez toute action climatique ». Donc c'est une procédure qui pourrait bientôt être initiée par un groupe de collectivités locales. Je pense qu'il y en a 14 associées à des ONG. Ensuite, il y en a une effectivement qui cible EDF. C'est des communautés locales au Mexique qui se plaignent d'avoir été évincées de leurs terres traditionnelles pour construire des grandes éoliennes qui alimentent en électricité les usines de multinationales au Mexique, notamment les multinationales nord-américaines. Et on a deux autres procédures encore un peu différentes qui visent plutôt les questions de droits syndicaux. La première vise Téléperformance, qui est une entreprise qui gère des centres d'appel pour beaucoup de grands noms comme Orange, Uber, Apple. Et la deuxième vise une entreprise encore moins connue qui s'appelle XPO, qui est une entreprise de logistique qui fait en fait des camions de la logistique. Donc c'est vraiment sur les droits des travailleurs dans ces deux entreprises.
Revenons un peu en arrière. Vous insistez beaucoup, Olivier Petitjean, sur le processus inédit d'élaboration de cette loi de 2017.
Effectivement, c'est une loi un peu unique en son genre en France parce que en France, c'est très rare que des députés arrivent à non seulement faire examiner une loi à l'Assemblée nationale, mais en plus réussissent à la faire adopter. Et donc c'est vraiment un exemple de loi qui d'abord a été, il y a eu tout un processus de mûrissement, disons, au sein de la société civile. Ils se sont rendus compte que le droit existant n'était vraiment pas adapté et même était précisément un peu construit pour éviter que les grands groupes, les sociétés mères soient mises en cause devant les tribunaux. Lors des élections de 2012, un peu comme on a vu en 2017, une vague de nouveaux députés qui voulaient se saisir de nouveaux sujets. Donc il y en a qui sont saisis de ce sujet de la responsabilité juridique des multinationales, qui ont travaillé avec la société civile. En fait, c'est un travail sur 10 ans presque qui a eu lieu avant même que la loi soit présentée à l'Assemblée nationale. Mais cette loi, elle est vraiment issue de l'expérience de la société civile. C'est vraiment l'exemple en fait de ce qu'une loi, dans un idéal démocratique peut-être, devrait être. Une loi qui finit par être adoptée malgré les réticences, voire les oppositions de certains intérêts établis, mais qui répond vraiment à un impératif, en tout cas éthique, important.
Venons-en au texte lui-même promulgué au mois de mars 2017. C'est un texte très bref, crucial parce qu'il arrive à délimiter le périmètre du multinational et à imposer aux multinationales de préserver les droits humains, les libertés fondamentales et l'environnement. Alors, c'est extrêmement ambitieux, non ?
C'est exactement le type d'intervention qu'il fallait. Quand on voit une multinationale, il y a une sorte de hiatus un peu étonnant entre la réalité économique de ce qu'est une multinationale. On pense à Total, à Sanofi, Orange, Apple. Donc d'un côté, c'est clairement délimité. On sait que quand Total vous apporte de l'essence à la pompe, on sait que c'est Total qui est responsable de cette essence. Mais d'un point de vue juridique, c'est totalement différent. En fait, c'est totalement éclaté. Donc il y a des sociétés distinctes, voire il y a des sous-traitants qui produisent certains téléphones Apple ou qui s'occupent de stations-service pour Total, etc., etc. Et donc d'un point de vue juridique, c'est très difficile, voire impossible, de remonter. Par exemple, quand on constate des faits potentiellement problématique dans une filiale en France ou à l'étranger, de remonter jusqu'à la société mère. On en a eu l'exemple avec l'explosion d'AZF en France en 2001 à Toulouse, donc c'était une filiale de Total, et jusqu'à ce jour, il a été très difficile de remonter jusqu'à Total du point de vue de la responsabilité juridique. Évidemment, quand il s'agit d'une filiale au fin fond de l'Afrique, c'est encore pire. Et donc, l'idée de cette loi, c'était vraiment de renouer ce lien d'un point de vue juridique entre la multinationale, telle qu'elle est dirigée depuis Paris, depuis New York ou autre, et la réalité de son influence tout autour de la planète, aussi bien dans ses filiales que chez ses sous-traitants, y compris au Bangladesh, quand ce sont des ateliers de textiles qui fournissent les enseignes de grande distribution en France, y compris en Afrique, quand c'est une filiale de Total qui forne du pétrole.
L'outil majeur qui est apporté par votre texte, c'est le plan de vigilance. Chaque société doit en établir un, le mettre en œuvre. Alors qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'efficacité de ces plans? Comment ils se sont élaborés entre 2017 et 2018 concrètement?
C'est vrai que la première vague de plans de vigilance, donc publiée en 2018, et la deuxième vague de plans de vigilance publiée en 2019, était assez décevante, au sens où souvent les grandes entreprises se sont contentées de rappeler ce qu'elles faisaient déjà, qu'elles avaient mis en œuvre tel programme, telle politique, telle charte éthique, tel code de conduite à destination de leurs fournisseurs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette loi, tous ces instruments qui jusqu'à présent étaient quand même un peu... Je dis pas qu'ils avaient aucune valeur, mais ils étaient un peu en l'air parce qu'on savait pas très bien quel était leur statut juridique, qui contrôlait, il y avait pas de
responsabilité éparpillée.
Voilà. Là, maintenant, tout de suite, comme c'est inscrit dans la loi et que derrière, tout au bout, au bout de tout un processus, il y a quand même la possibilité qu'un tribunal vienne examiner tout ça. Et donc, ça donne tout de suite beaucoup plus de poids à tout ce qui a été fait par les entreprises. Et la procédure dont je parlais contre Total qui est en cours et que très prochainement il y aura une saisie du juge très probablement. Justement, on est vraiment dans ce cas de figure où Total dit oui, on a mis en place ce plan d'action. Et les ONG en face disent oui, mais sur le terrain, on a des témoignages qui montrent que ça marche pas. Donc c'est vraiment, on entre vraiment dans le vif du sujet. Et c'est ça qui va changer la donne, effectivement.
Est-ce que cette législation française, quand elle est adoptée au mois de mars 2017, elle va faire des émules ensuite dans le monde?
Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que dans tout le débat sur cette proposition de loi, à l'époque où c'était une proposition de loi, il y a eu cet argument qui revient toujours dans ce domaine de la part du gouvernement et des milieux économiques qui dit bon, on peut pas faire ça juste au niveau français, on va se tirer une balle dans le pied, on va nuire à notre compétitivité, etc. Et là, en l'occurrence, le contre-argument, c'était que justement, au contraire, la France pouvait jouer un rôle pionnier et même accélérer le processus en cours dans d'autres pays. Parce qu'évidemment, cette problématique, elle n'est pas du tout typique à la France. Plusieurs pays européens, maintenant, envisagent ouvertement d'adopter une telle loi. En Suisse, il va y avoir l'année prochaine un référendum citoyen pour adopter une loi très similaire. L'Allemagne est en train d'envisager de rédiger une loi de ce type. La Finlande, le Luxembourg l'ont inscrit au programme de leur nouveau gouvernement récemment élu. Et maintenant, il est même question qu'il y ait une directive européenne en ce sens qui emmène même les plus récalcitrants dans la même démarche et qu'il y a un peu une approche cohérente au niveau européen.
De l'Union européenne
du coup. En dehors de l'Union européenne, il faut mentionner, en ce moment même, à Genève, au siège de l'ONU, il y a une négociation en vue d'un traité international qui introduise des dispositions juridiquement contraignantes pour les multinationales du point de vue de leur impact sur les droits humains. Là encore, il y a beaucoup d'opposition, mais on peut voir que c'est un processus ouvert et que le fait que la France ait adopté une loi, ça a vraiment été un moment où on a mis un pied dans la porte et où ça a ouvert beaucoup d'espace dans d'autres pays européens, même au niveau international.
Le journaliste Olivier Petitjean au micro de Marguerite Caton. Je rappelle le titre de son ouvrage qui vient de paraître aux éditions Charles-Léopold de Mayer, « Devoir de vigilance, une victoire contre l'impunité des multinationales ». se quitte avec Too Bad de Jean Tonic. La semaine prochaine, le capitalisme se retrouve sur le banc des accusés. Est-il aujourd'hui à son apogée? On posera la question lundi à Jacques Mistral et Gérard Duménil. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr ou en podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Excellent week-end et à lundi. She was right next to me. Next time.